Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à Washington incessamment pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous médiation américaine. Mais attention, ne vous laissez pas berner, on ne fera ni brassage ni mixage, dit-il. Le chef de l'État congolais s'est exprimé ainsi vendredi devant la diaspora congolaise en Serbie. Plus de 160 000 enfants ciblés pour la campagne de vaccination contre la rougeole. Campagne en cours dans le massif au Nord Kivu, mais en saison des pluies en ce moment, les vaccinateurs doivent sillonner des sentiers glissants et des vallées escarpées, ce pour donner le vaccin même dans les aires de santé les plus reculées. Et puis, l'invité de ce midi, Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate, évêque auxiliaire de Kisangani. Il nous parle de la séance de restitution sur l'utilisation des fonds d'indemnisation collective reçus du FRIVAO, séance organisée par l'archidiocèse de Kisangani hier samedi. Madame, Messieurs, bonjour. Le président Félix-Antoine Tshisekedi était devant la diaspora congolaise vendredi en Serbie. Devant elle, le chef de l'État a déclaré, je le cite, « Je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Mais ne vous laissez pas berner, on ne fera ni brassage ni mixage. » Fin de citation. Il a ainsi clarifié les contours du projet d'accord signé avec le Rwanda sous médiation américaine. Cette déclaration publiée sur le compte X de la présidence intervient dans un contexte marqué par des tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. Détail avec Jude Mister Bilanda.
Le président Tshisekedi a également abordé la question de l'intégration régionale qu'il considère comme une priorité depuis son accession au pouvoir. Pour lui, le respect des accords implique le respect de la souveraineté de la RDC, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie, a-t-il martelé. Cette sortie intervient alors que Kinshasa et Kigali sont engagés dans des discussions diplomatique sous médiation internationale dans le but de restaurer la stabilité dans la région des Grands Lacs. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi 27 novembre à Kigali, Paul Kagame a accusé les gouvernements congolais de refuser d'assumer ses responsabilités pour mettre fin au conflit et notamment en rejetant toute négociation avec les rebelles du M23. En réaction, Kinshasa a renvoyé Kigali aux accords signés entre les deux pays, lui rappelant son obligation de les respecter. Les chefs d'État rwandais et congolais doivent entériner début décembre l'accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington par leur ministre des Affaires étrangères sous l'égide des États-Unis.
Confirmant le voyage du président Félix-Antoine Tshisekedi à Washington, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, indique que ce déplacement témoigne une fois de plus la volonté de Kinshasa de restaurer une paix durable dans la partie est de la RDC. Il a dit dans un entretien exclusif accordé hier samedi à Radio Kapi, le porte-parole du gouvernement congolais appelle également la population à la vigilance et à l'unité afin de ne pas laisser la voie aux envahisseurs, dit-il. Il est au micro de Blaise Ndongo.
Tous les jours, toutes les semaines, nous suivons de près la situation dans les parties du pays qui sont sous-occupées. C'est pour ça que, rapidement, le président de la République avait désigné un gouverneur militaire qui siège aujourd'hui à Beni, qui suit spécifiquement la situation dans les parties occupées dans la province du Nord Kivu, et un gouverneur dans la province du Sud Kivu, basé à Uvira, qui lui, à son tour, suit la situation. Parce que nous avons besoin d'être sûrs qu'au quotidien, nous documentons et nous intervenons pour les problèmes les plus urgents de nos populations. Et que les déplacements que le président de la République va effectuer à Washington, c'est fait dans le strict objectif de répondre à l'impératif rapide de restaurer la paix et la sécurité. Je voudrais aussi exhorter nos populations à faire attention à la manipulation et aux campagnes de désinformation qui sont tramées par le père et les fils, le Rwanda et le M23. Vous savez que nous dénonçons souvent ce qu'on appelle le poison rwandais parce qu'il y a toujours un venin de la division, de la confusion qu'on veut constamment inoculer dans notre opinion pour fragiliser le bloc national autour du président de la République.
Par ailleurs, la plateforme politique Front Anti-Dialogue, portée par le parti Congo Positif, s'est réjouie d'avoir mobilisé 1 million de signatures des Congolais et Congolaises qui disent non à toute forme de dialogue sur la résolution de la crise en RDC, pétition lancée depuis le 17 août 2025. En effet, au cours d'une matinée politique organisée hier à Kinshasa, le coordonnateur de cette plateforme interprète ses résultats comme une expression du ras-le-bol de la population au sujet de toutes les initiatives qui mettent un accent sur un éventuel dialogue en rapport avec la crise qui sévit en RDC et dont les résultats n'aboutissent à rien. Dieudonné Nkichi Kazadi, l'a dit président national de Congo Positif, en parle au micro de Jean-Marc Matwaki.
Un sentiment de responsabilité de voir qu'il y a parmi nous 1 million de Congolais qui partagent le point de vue que nous avons émis le 17 août 2025 lorsque nous lancions le front anti-dialogue. C'est vraiment une joie, mais aussi une responsabilité de constater qu'il y a parmi les Congolais 1 million d'entre nous qui ont accepté de signer et donc qui partagent notre point de vue. Et les millions, c'est dans 3 mois seulement que nous les avons réunis. Ça veut dire que c'est représentatif. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les Congolais, à travers le pays, ne veulent pas de dialogue. Et ici, j'ajoute qu'en dehors de 1 million de signatures que nous avons récoltées, pas plus tard qu'hier, nous avons tous vu dans la presse les sondages qui ont été réalisés par un institut sérieux qui dit également qu'il y a 64% des Congolais sondés qui sont contre le dialogue tel qu'il est proposé dans notre pays.
Sachez que la plateforme anti-dialogue envisage de présenter cette pétition aux autorités compétentes et s'attelle en même temps à mobiliser les jeunes de toute la République pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. La commission chargée de la synthèse des rapports des vacances parlementaires couvrant la période de juin à septembre 2025 s'est réunie à Kinshasa. Objectif, analyser et harmoniser l'ensemble des rapports issus des députés nationaux. Les membres multiplient les efforts pour livrer un rapport final à la hauteur des attentes de la plénière. Un engagement salué par Clotilde Mutita, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, venue encourager personnellement l'équipe en pleine séance de travail. Nocturne. Tania Makolo Njoli, chef de cabinet de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, explique ici l'essentiel de leur travail au micro de Vanessa Nkongolo.
On a reçu un peu plus de 300 rapports de vacances parlementaires. Je crois qu'on est autour de 323. Et il s'agit maintenant de faire la synthèse pour que le gouvernement ait une vision de la République, des problèmes de chaque province, de chaque territoire, pendant la session, de ce que les élus ont constaté lors de leurs vacances parlementaires. On a commencé déjà depuis un moment et là on est en train de finaliser. Donc on s'est regroupé dans une petite équipe de 10 personnes et on va finaliser les travaux. Donc on ne va pas beaucoup dormir.
Notez que la présentation de ces rapports est prévue pour le 3 décembre prochain. Je vous l'ai dit dans les titres, plus de 160 000 enfants ciblés pour une campagne de vaccination de 5 jours contre la rougeole dans le territoire de Masisi, au nord Kivu. Cette campagne concerne les zones de santé de Kiroche et de Katoy dans le territoire de Masisi où la rougeole a refait surface il y a 2 mois. Nous sommes en pleine période pluvieuse, vous le savez, et la région est montagneuse. Du coup, les vaccinateurs doivent sillonner des sentiers glissants et des vallées escarpées pour garantir que les vaccins arrivent même dans les aires de santé les plus reculées. Le point de la situation avec Rosalie Zawadi.
La rougeole s'est propagée très rapidement. En l'espace de 2 mois, plus de 2000 cas ont été enregistrés dans les zones de santé des Kiroche et Katoy. L'installation des structures des prises en charge a permis de sauver des vies, mais pour stopper la maladie, MSF a jugé impératif de vacciner massivement tous les enfants pour les mettre à l'abri du risque, explique Théo Bouchala, responsable pour MSF des activités de vaccination dans ces 2 zones de santé.
Le risque est grand parce que si un enfant n'est pas vacciné, donc il n'est pas protégé non plus contre la rougeole. La rougeole, c'est une maladie meurtrière chez les enfants. Dans la zone de santé de Katoy, nous avons déjà pris en charge depuis le 2 octobre 2243 enfants, parmi lesquels 646 ont développé des formes sévères. Mais tout ce monde-là ont bénéficié des soins gratuits et sont heureux qu'ils retrouvent la vie, quoi.
Pour plusieurs acteurs de santé sur place, cette vague des rougeoles est une conséquence directe du conflit. Les déplacements massifs des populations ont mis à l'arrêt la vaccination des routines, laissant des milliers d'enfants sans protection. Non seulement la guerre a paralysé les systèmes, mais elle a détruit aussi les infrastructures. De nombreux centres de santé ont perdu leur chaîne d'effroi. Et dans ces conditions, difficile de conserver et de distribuer ces vaccins vitaux. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Maniema. La pluie diluvienne, accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu vendredi soir sur Kindu, a laissé derrière elle d'énormes dégâts matériels. D'après le service de la protection civile, plus de 3000 maisons sont endommagées, 5 écoles détruites et 15 personnes blessées. Et toutes ces familles se retrouvent sans abri, en besoin donc d'une assistance urgente. Walanga Bali Michel, coordonnateur provincial de la protection civile, en parle au micro de Florence Kizalunga.
Le vendredi 28 novembre, vers 16h passées, la pluie s'est abattue et vient de laisser un dégât énorme dans la ville de Kindu. Et après cette pluie, nous avions descendu sur le terrain pour aller identifier. Et voilà, nous venons avec un bilan provisoire. Dans la commune d'Alunguli, on a enregistré 1043 maisons. On a enregistré aussi 15 personnes blessées, et 5 écoles touchées. Et sur les 15 personnes blessées, il y a 10 personnes qui sont dans l'hôpital et les 5 autres manquent de moyens, sont toujours à la maison. Et la commune Kasuk, nous avions enregistré 1721 maisons. Et enfin, la commune Mikelenge, nous avions enregistré 463 maisons, qui fait total de 3227 maisons endommagées et touchées par cette pluie. La fois passée, nous avions déploré les cas de pertes en vie humaine, mais cette fois-ci, puisque là, nous n'avons pas encore enregistré les cas de pertes en vie humaine, nous venons alerter auprès des autorités, parce que avant tout, ce sont les autorités qui peuvent toujours amener la réponse, et aussi aux partenaires, animés de bonne foi, de venir aussi apporter l'aide humanitaire auprès de ces ménages touchés. Et surtout, que nous approchons à la fête de la fin d'année.
En séjour à Lubumbashi, le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la jeunesse a visité vendredi le centre des jeunes de Lubumbashi. Ce centre, considéré comme l'un des plus importants dans le Haut-Katanga, encadre des jeunes dans différents secteurs depuis plusieurs années. Cependant, il fait face à d'énormes défis. Paulin Munanga nous présente ce centre dans ce reportage.
Situé à la Katuba, une commune populaire de la ville de Lubumbashi, le centre des jeunes de Lubumbashi est constitué de plusieurs locaux en plus de la grande salle de spectacle. Construit en août 2011 grâce au Fonds social de la République et à l'UNFPA, le centre des jeunes est un cadre multisectoriel où se déroulent les activités de promotion de la jeunesse. Ce sont notamment les activités culturelles, sportives et les formations diverses. Ce centre jouit d'une autonomie de gestion. Cependant, il fait face à des difficultés pour son fonctionnement. Gabin Ilungampunzi est administrateur du centre.
C'est un centre où tous les services sont censés être donnés gratuitement, tel que ça se fait à l'INPP payant, mais au centre des jeunes, tous les services sont gratuits. Services de santé, formation en informatique, formation en mécanique, en entrepreneuriat et consorts, la lecture à la bibliothèque, tous les services sociaux sont censés être gratuits. Mais malheureusement, il n'y a pas de frais de fonctionnement, ce qui est un handicap à l'atteinte des objectifs du centre.
Le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la jeunesse, Felipe Pollier, a échangé avec des centaines de jeunes réunis au centre et a promis de faire un rapport au sujet des difficultés pour le bon fonctionnement du centre des jeunes de Lubumbashi. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, plus de 900 ex-miliciens et membres des communautés locales bénéficient d'un nouveau projet de fabrication d'aliments nutritifs pour poissons, bétail et volailles. Cela se passe à Chomia, dans la plaine du lac Albert, dans le territoire de Djougou. Financé par la MONUSCO, ce projet a été lancé jeudi par le représentant du gouvernement de l'Ituri. Objectif, consolider la paix, renforcer la cohésion sociale et contribuer au développement d'une population durement touchée par les affres de la guerre. Isaac Remoyope, et pour les détails.
Ce projet prévoit la construction d'une usine de fabrication d'aliments nutritifs, l'aménagement des champs destinés aux cultures vivrières qui seront utilisées dans cette usine, ainsi que des dépôts de stockage. Pour la MONUSCO, l'objectif est clair, renforcer la paix et soutenir le développement. Josiah Obat, chef de bureau en Ituri.
La MONUSCO est avec vous dans ce projet de développement et réinsertion des jeunes dans les communautés.
Le gouvernement provincial estime que cette initiative de la MONUSCO répond au défi crucial de la création d'emplois pour les jeunes, un gage de paix durable. Irène Vaweka, représentante du gouverneur.
Le retour à la vie civile de nos frères et sœurs, qui ont à un moment donné pris les armes, est un défi majeur. Nous ne pouvons pas bâtir l'Ituri de demain sans offrir une alternative crédible et durable à la violence.
De son côté, le PDDRCS salue ce projet qui contribuera aussi à préserver les espèces de poissons au lac Albert, menacées d'extinction à travers l'aquaculture en plein essor dans les milieux. Son coordonnateur à Djougou.
Bien nourrir les poissons, ça peut nous ramener à refaire les espèces à disparition.
La MONUSCO rappelle avoir déjà mené plusieurs actions de réinsertion des ex-combattants d'Ituri, notamment à Komanda, Nyankunde et Chomia. Bounia, Isakre Moyope, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Des centaines de manifestants se sont rassemblés samedi devant l'ambassade du Nigeria à Madrid. C'est un signe de soutien aux chrétiens kidnappés et attaqués dans ce pays africain. Un rassemblement organisé après l'enlèvement de plus de 300 élèves d'une école catholique le 21 novembre au Nigeria. Les manifestants appellent à protéger les chrétiens. Selon les autorités scolaires, 50 enfants ont réussi à s'échapper. Le président nigérian Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence la semaine dernière, renforçant les forces de police du pays pour lutter contre l'escalade des attaques. De son côté, le président américain met en garde le Nigeria contre une intervention militaire si rien n'est fait pour protéger les chrétiens. En réaction, les autorités nigérianes affirment que toutes les communautés sont touchées par les exactions des groupes armés.
L'invité.
Nous sommes à Kisangani dans la Tchopo. L'archidiocèse de Kisangani a organisé une séance de restitution sur l'utilisation des fonds d'indemnisation collective reçus du FRIVAO. Cette séance a été animée par le comité de gestion mis en place par l'archevêché dirigé par l'évêque auxiliaire Monseigneur Léonard Ndjadinjate. C'était hier dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire à Kisangani. Pour en parler, nous recevons Monseigneur Léonard Ndjadinjate. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Monseigneur Léonard Ndjadinjate, bonjour.
Bonjour.
Monseigneur, vous venez de procéder à l'exercice de redevabilité concernant les fonds reçus du FRIVAO. Pouvez-vous nous rappeler les montants reçus et les modalités d'octroi?
Merci beaucoup pour la question. Le montant que l'archidiocèse a reçu est à la hauteur de 2 500 000 dollars. Et c'est la première tranche que FRIVAO a accordée à l'archidiocèse de Kisangani, qui a été une victime emblématique de la guerre de 6 jours.
Quand vous parlez de la première tranche, c'est qu'il y a une deuxième ou une troisième encore attendue du FRIVAO?
Les dommages causés à l'église catholique de Kisangani ont été évalués autour de 4 millions. Voilà pourquoi ce que nous avons reçu a été une première enveloppe et donc nous attendons la deuxième enveloppe.
Monseigneur, comment ces fonds ont-ils été utilisés concrètement sur le terrain?
Sur le terrain, nous avons d'abord élaboré la liste de bénéficiaires. Et parmi les bénéficiaires, il y a l'archidiocèse comme entité et sa structure, il y a des écoles, il y a des établissements sanitaires, il y a les communautés, les congrégations religieuses, il y a les maisons de formation à la vie religieuse et sacerdotale. L'utilisation des fonds, pour répondre directement à votre question, avait été orientée soit pour les constructions nouvelles dans les communautés, les sites qui ont été touchés, soit pour la réhabilitation de certains bâtiments, soit comme compensation, c'est-à-dire ceux qui, après la guerre des 6 jours, avaient déjà procédé à la réparation, à la réhabilitation de la structure, ceux-là ont reçu leur enveloppe en compensation à ce qu'ils ont dépensé.
Alors, quelles sont les difficultés que vous avez enregistrées pendant ce temps, pendant la construction ou la réhabilitation?
Pendant ce temps, nous avons enregistré des difficultés, entre autres l'incompréhension sur la destination même de ce fonds. Il y a eu l'incompréhension dans le sens où certains fidèles pensaient qu'ils doivent recevoir chacun une enveloppe. Alors nous avons pris le temps d'expliquer qu'il s'agit d'une indemnisation collective qui porte sur le bien commun. Et avec le temps, on a éclairé cette incompréhension. La deuxième difficulté a été la montée du prix des ciments au marché. Et cela a causé un retard dans l'exécution de certains travaux. La troisième difficulté a été le fait que certaines entreprises avaient les comptes, non pas de l'entreprise, les comptes bancaires, mais du responsable de l'entreprise.
Est-ce que des mécanismes de suivi ou de transparence ont été mis en place pour assurer la population?
Effectivement, les mécanismes de suivi et de transparence ont été mis en place, d'abord par les contrôles internes, contrôles administratifs et financiers, mais aussi contrôles techniques par le bureau d'expertise immobilière. Il y a eu cette vérification auprès de chaque entité de son travail. Et donc cela a permis au niveau interne d'avoir un mécanisme de suivi de rigueur et de transparence. Et au niveau externe, nous avons reçu à deux reprises la visite des inspecteurs généraux aux finances et la visite aussi de l'équipe de Frivao ici au niveau local.
Quelle a été leur appréciation?
Leur appréciation a été positive à l'égard de l'archidiocèse. Ils ont apprécié la qualité du travail qui a été fait, la rigueur dans l'exécution de ces travaux, mais aussi le respect des normes de la gestion telles que la loi le demande, y compris au niveau aussi de l'Église.
Un mot de la fin, Monseigneur.
Le mot de la fin que je dirais est que l'exercice que nous venons de faire n'est pas habituel dans notre culture, dans notre tradition, mais il est nécessaire aujourd'hui pour mériter à la fois la confiance des donateurs, pour ouvrir les portes au financement que nous pouvons recevoir, mais aussi nécessaire pour la crédibilité des institutions. Et donc, si nous entrons dans ce dynamisme, nous pouvons développer notre pays, le Congo. Le dynamisme qui consiste à rendre compte de ce que nous avons reçu comme somme d'argent.
Monseigneur Léonard Ndjadindjaté, merci.
Merci à vous et bon travail.
L'évêque auxiliaire de Kisangani répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Richard Junior Kamonga, Billy Landry Beto à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.